campagne, bonjour. Dernière étape dans l'Allier. Tout de suite, une invitation à suivre l'actualité de la MAP de Montluçon. La MAP Les Courgettes, qui vient d'organiser une foire des producteurs bio du pays montluçonnais, qui n'est pas simplement qu'une belle équipe de producteurs de paniers de légumes bio, mais aussi une belle équipe à penser, à réfléchir. J'aime bien lorsqu'elle fait la différence entre un pays comme le Brésil, dont on parle beaucoup actuellement et pour cause, principal producteur agroalimentaire dans le monde, qui contradictoirement enregistrait en 2009 une insuffisance alimentaire chez une personne sur trois au Brésil. Le problème est non la production agricole, mais l'usage que l'on en fait. C'est pour répondre à cette infaillible question qu'est née cette AMAP, qui tient une revue de presse drôlement bien faite qui s'appelle The Surfing Courgette. Vous allez trouver les liens, nos pages d'émission. On invente à chaque fois des choses fabuleuses. Au sommaire du jour, un EHPAD de Vichy qui libère la parole des résidents et des professionnels par un projet inventif. À lire en parallèle l'article de Laurent Gibowski dans les pages numériques de la vie. Premier invité, donc, Olivier Marie, directeur de l'EHPAD Jeanne Coulon. Et puis nous reviendrons en Ardèche pour vous faire entendre un entretien que nous n'avions pas pu diffuser en son temps sur une maison assez rare, assez exceptionnelle en milieu rural, la Maison de Vallée, une sorte de centre socio-culturel avec Gaël Berge.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Olivier Marie, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Olivier, vous êtes directeur de l'EHPAD Jeanne Coulon à Vichy. On va parler d'un projet qui est intéressant, original, qui a bénéficié des lauriers de la Fondation de France en mai dernier, qui vous ont été remis à l'Hôtel de Ville de Lyon. Projet qui permet de libérer la parole, de tisser des liens entre les résidents de votre établissement et les professionnels. Est-ce que ce programme était en réaction à ce tour d'horizon des EHPAD et des fâcheuses conditions parfois de travail des personnels et de la situation des résidents?
Oui, c'est un projet qui s'appelle « Parole qui ne s'envole pas et écrit qui reste », avec pour but avoué l'expression de toutes les personnes de l'établissement. Mmh. Alors les personnes accueillies, évidemment, et les professionnels, afin qu'ils livrent eux-mêmes des choses. Alors le but du jeu au départ, c'était d'interroger la question du deuil, vivre ses choix, vivre son deuil. Mmh. Et à partir de là, ils ont exprimé autre chose. On était dans l'inattendu, un certain nombre de choses, de leurs conditions de vie, de leur histoire, de leur regard sur l'établissement. Je crois que c'est un projet qui est arrivé en contrepoint des mouvements de personnel dans les EHPAD parce que il a permis de redonner une dynamique positive dans une période, à mon sens, pessimiste pour le secteur.
Oui. Et logiquement pessimiste, par manque de moyens, par manque de personnel.
Oui, il faut pas se voiler la face. Logiquement pessimiste, on a des choix de politique publique qui restent à faire. Moi, le directeur, j'ai été dans un mouvement de grève l'année dernière. J'ai soutenu ces démarches qui font que les moyens ne sont pas encore ce qu'on voudrait, même si au niveau de mes établissements, on a la chance d'avoir des taux d'encadrement qui restent cohérents.
Oui. Le projet a permis d'organiser, puisqu'il passait par là, d'organiser des groupes de parole.
Exactement. Pendant plus de 6 mois, 10 rencontres qui ont lieu au niveau des résidents de l'établissement, c'est-à-dire 25 résidents de la résidence Jeanne Coulon, et 10 rencontres aussi pour 20 professionnels de l'établissement. Mmh. Donc à hauteur d'une fois par semaine, des rencontres d'une part animées d'un côté par une psychanalyste, que je me permets de saluer, Madame Claudine Valette Damas, et puis d'une journaliste, Madame Foro-Annick, pour permettre l'expression à la fois des professionnels sur les difficultés qu'ils avaient à certains accompagnements, et surtout laisser la parole aux résidents, pour certains qui n'arrivaient plus à s'exprimer.
Oui.
Donc l'idée, c'était effectivement ça, qu'on retrouve de la liberté dans la vie institutionnelle, au-delà de l'organisation du cadre de la vie quotidienne. C'est tout un préalable à aller à ce lieu de rencontre.
Oui, oui, oui.
Pour des dames, c'était s'apprêter, s'habiller, avoir un rendez-vous. Et ils s'y jouaient des choses, ils s'y jouaient de leur histoire, ils s'y jouaient de plein de choses personnelles qui pouvaient être livrées dans un cadre confidentiel.
Et Olivier, vous êtes parti quand même d'une thématique grave, du deuil, de la mort. Vous dites que ça a pris d'autres tournures au fur et à mesure de l'expérimentation. Malgré tout, dans la dernière ligne droite de vie, est-ce que les sujets abordés ne sont pas pénibles, lourds, noir, à savoir la solitude, les regrets à l'égard d'une vie vécue, éventuellement, les souvenirs qui reviennent à la surface et qui peuvent effacer le moment présent?
Effectivement, au tout départ de l'action, on pose le sujet de la fin de vie. L'inattendu, c'est les gens qui arrivent et qui expriment leur histoire, leur vie. Là, on va pas parler de la fin de vie. On va parler de qui ils étaient, quels sont leurs parcours, quels sont aussi leurs regards sur l'institution. Et effectivement, l'inattendu, c'est des gens qui vont nous parler d'eux, qui vont pas être dans les angoisses d'un certain nombre de choses, même si les angoisses sont toujours présentes. Non, on est plutôt du côté de la pulsion de vie.
Oui.
Du côté des professionnels, c'est d'autres enjeux. Le métier d'accompagnement, et notamment sur la fin de vie, il peut être dramatique, douloureux, très angoissant. Et là aussi, les échanges d'expériences avec des aides-soignants d'une grande expérience et des jeunes professionnels. On a une transmission générationnelle qui se fait aussi sur l'expérience de l'accompagnement à la fin de vie.
Oui. On peut envisager une pérennité de ce programme ?
Oui, on va essayer d'envisager une pérennité de ce programme. Alors tout d'abord, par un ouvrage qu'on essaye de consacrer autour de ces ateliers. Il faut souligner aussi que des professionnels se sont mis à écrire sur leur expérience d'accompagnement. On va essayer d'en faire un ouvrage. Et puis, ça va être un point d'ancrage aussi à un projet institutionnel.
C'est une belle expérience menée donc à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Jeanne Coulon à Vichy. Paroles qui ne s'envolent pas et écrits qui restent. On attend la publication à la fin de cette année. Et puis les liens avec les lauriers du public de la Fondation de France que vous avez obtenus et avec votre établissement, évidemment. Merci Olivier.
Oui. Je vous remercie Philippe Bertrand. Merci, au revoir.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Lors d'un précédent passage dans le département de l'Allier, nous avions donné la parole à Pierre Gadret. Pierre qui est documentariste et fondateur de la coopérative audiovisuelle Zimage Production. Pierre, atteint de tremblements essentiels, nous avait accordé un entretien depuis l'hôpital de Clermont-Ferrand avant de subir une intervention par stimulation cérébrale. Notre patient n'avait surtout pas oublié sa caméra pour filmer son expérience. Du coup, le film « Pierre, tu trembles » est sorti. Il a été co-réalisé avec Marie-Christine Duchalet. Il vit sa vie depuis quelques mois par des projections publiques et des débats. Autour de cette maladie neurologique, il y a des séances prévues en Saône-et-Loire, dans la Loire et dans l'Allier. Le 19 novembre à Autun, par exemple. Le 22 novembre à Roanne. Le 1er décembre à Vieure, dans l'Allier. Et le mercredi 5 décembre à Cressanges, à 18h, au centre socio-culturel, en partenariat avec la commune. Vous allez trouver des liens et les indications sur ces projections publiques sur le site de la coopérative Scopzimage, avec un Zimage. Ça apparaît à notre page d'émission et sur notre page Facebook. Retour en Ardèche, cette fois avec Gaëlle Berge. Bonjour Gaëlle.
Oui, bonjour.
Quelle réputation cette maison de Valais dont vous êtes la coordinatrice, vu le nombre de courriers qu'on a reçus à votre sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de Valais ?
Alors, la maison de Valais, c'est le nom qu'on a donné à notre projet d'espace de vie sociale. Un espace de vie sociale, c'est comme un centre socio-culturel miniature. En fait, nous, on est dans une zone rurale où il y a peu d'habitants et donc on a un mini-centre socio-culturel de monde rural qui est porté par une association. Une association qui s'appelle Monte à la Fère.
Oui. Qui signifie quoi, Monte à la Fère ?
Ça signifie monte à la foire. C'est dans le patois local. En fait, notre village était un village très réputé il y a quelque temps parce que toutes les foires aux bêtes se retrouvaient tout le monde se retrouvait dans ce village pour les foires.
Comment on réunit dans un lieu des habitants qui sont éparpillés et partagés entre une quarantaine de hameaux, de lieux-dits, 14 habitants au kilomètre carré? On connaît pire aussi, mais c'est vrai que la densité est faible et les habitants sont très dispersés.
Oui, alors c'est vrai que les habitants sont dispersés. Alors il y a quelques centres-bourgs qui réunissent un peu les habitants, mais c'est vrai qu'il y a énormément de hameaux et lieux-dits dans cette vallée de la Bourges et que parfois dans les hameaux, il y a 3, 4, 5 maisons et une seule habitée à l'année. Donc c'est vrai que on ne va pas toujours dans les hameaux voisins si on n'a rien à y faire. Alors nous, on essaye de proposer des actions qui permettent aux personnes de se rencontrer à la fois dans les centres-bourgs, mais également dans les hameaux, en faisant des actions, par exemple, à domicile.
Oui. Et vous vous présentez comme des facilitateurs d'initiatives d'habitants. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, ces initiatives. Elles sont de l'ordre de l'animation ou des activités, proprement dites. Par exemple, ça se passe chez moi.
Alors, ça se passe chez moi, ça a été initié par un habitant, en fait. Et donc, du coup, on propose tous les deux mois une soirée chez les habitants. Donc, c'est les habitants qui se proposent d'accueillir. Donc, ils ouvrent soit leur maison ou si c'est l'été, ils peuvent ouvrir leur jardin, par exemple. Et donc, n'importe quel habitant de la vallée peut venir avec une boisson, un plat, et on se retrouve soit autour d'un thème ou sans thème. Mais en fait, c'est un peu notre fête des voisins, mais toute la vallée est notre voisin.
Oui.
Et on a l'impression de passer une soirée entre amis alors que les personnes ne se connaissent pas nécessairement ou pas toujours.
Mais ça fonctionne tellement bien que vous avez trop de propositions, c'est bien. Vous avez un espace public numérique aussi.
Oui, exactement. On a créé en même temps que l'espace de vie sociale un espace public numérique qu'on cherche à rendre le plus itinérant possible parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de ce côté-là, qu'un certain nombre de personnes se sentaient isolées et que la fracture numérique contribuait aussi à cet isolement dans une société où aujourd'hui tout est un peu numérique. Donc on a une équipe de bénévoles, 6 à 7 bénévoles qui assurent très régulièrement des cours d'informatique à destination des seniors, mais pas que. Et en fait, on évolue de village en village avec nos ordinateurs pour faire ces formations numériques. Et on essaye aussi d'élargir en fait le spectre du numérique en l'abordant dans d'autres petites actions, de ci, de là.
Et puis les lundis du terroir et des savoirs qui fonctionnent très bien aussi.
Alors ça, c'est notre action phare. C'est tout l'été, donc il y a une trentaine de bénévoles qui travaillent tous les lundis à faire en sorte que ces marchés soient une réussite. Donc on fait un marché des producteurs et des artisans locaux, mais les artisans peuvent proposer des actions, comme par exemple le vannier peut donner des explications sur la manière dont il fait la vannerie et les personnes s'y appliquent. Mais il y a aussi pas mal d'animations, des balades à thème botaniques, géologiques... un peu de peinture, il y a des concerts également, toute une programmation culturelle qui est proposée tout au long de l'été. Et c'est vraiment le rendez-vous des habitants, en fait, qui ont pris l'habitude de se dire « on se retrouve au lundi ». Voilà, donc c'est dans le parc municipal.
La Maison de Vallée, avec l'association Monte à l'affaire, maisondevallée.fr pour l'adresse, il y a la page Facebook aussi, Maison de Vallée. Il y a une dynamique, une solidarité et des animations et des idées qui ressortent de ces initiatives. C'est vraiment bien. Merci Gaëlle.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, nous allons bientôt quitter l'Auvergne pour nous rendre en Bourgogne la semaine prochaine, en Saône-et-Loire plus précisément. Je rappelle des étapes qui peuvent vous intéresser, nous intéresser pour vos courriers, dénonciations, autodénonciations et cafetages si vous préférez. Au mois de décembre en particulier, les départements de l'Eure, de Haute-Loire et puis un peu plus tard la Lozère et j'ajoute le Pas-de-Calais et le Nord. Merci pour vos courriers, merci à Anne Lioreau qui réalisait les carnets, merci à Mathilde Verfailly qui leur donnait du contenu, technicienne de France Inter qui leur donnait du volume, comme Nicolas Slimani aujourd'hui. Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Payret, la dernière du jeu des 1000 euros, dans l'Allier à Lurcy-Lévis.